Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. It's Friday and you know what that means. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown. Welcome to the 1187e épisode du nom. On est à Grand Rapids, Michigan, USA, à la Van Andel Arena, aux commentaires Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, encenser ou mettre en PLS cet épisode de Friday Night SmackDown, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois et nous sommes une triple frite, votre combo favori. Et alors là, en plus, que du bonheur, les amis, que du plaisir, puisqu'on est une triple frite. Intergender. Alors je vais quand même ouvrir le bal avec le doyen, avec le vieillard. Accueillons avec bruit et fracas mon technique partner habituel, indétrônable, of the day, l'indéboulonnable, l'inamovible, l'inchavirable, l'insubmersible, papy anti-atomie. Salut papy!
Bonjour petits enfants, bonjour tonton, mais oui, je suis ton technique partner, ça veut rien dire, mais ça passe quand même.
Mais oui, l'essentiel c'est de le dire tout haut et tout fort pour que ça grésille dans le micro. Et j'ai commencé par toi, parce que... Traditionnellement, on fait du catch consacré à Edge. Je vous le recommande. Il est en ligne. Eh bien, nous recevons tout simplement notre rookie, Rowdy Letty. Salut Letty, bienvenue à la review de Friday Night SmackDown de SketchUp.
Salut tonton, salut papy, merci de m'accueillir.
Alors papy, c'est ta première avec Letty.
Mais oui, je viens. On m'a dit qu'il y avait une nouvelle qui bousculait les codes, qui bousculait l'animation du podcast. Donc du coup, j'ai voulu voir et surtout écouter de mes propres oreilles.
Bon, Letty, t'es prête? Tu as vu ce Friday Night SmackDown? Je crois que tu as vu la version française de notre ami Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Ça tombe bien, moi aussi. on en parlait hors antenne. Et effectivement, quasiment, je me double le Friday Night SmackDown ce week-end pour le plaisir. Et il va y avoir un fil bleu hein, tout au long de ce show. On va pas faire de mystère d'entrée, puisque à Grand Rapids, il est tout simplement prévu ce soir le fameux RK-Bro versus The Uso pour l'unification des titres. Par équipe, sans plus attendre, on va accueillir notre champion du monde unifié des mondes des poids lourds, universaire, of the world, méta, multivers, mondial de l'univers, Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman et des Uso. La Bloodline est au complet. Ce soir, c'est une nuit très spéciale. Le Tribal Chief nous explique que non seulement le peuple de Grand Rapids va reconnaître son chef tribal, mais également toute la tribu, toute la Bloodline. Paul Heyman prendra le micro et va dire que tout simplement, Roman Reigns est greatest of all time. Il pourrait vaincre n'importe qui, Bruno Sammartino, Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold, Lesnar, Enko. Il pourrait vaincre tout le monde en même temps s'il le voulait. Bref, tout le monde sera détruit par le Tribal Chief. Il va enchaîner en nous expliquant ce soir, c'est les Uso qui vont accomplir quelque chose d'incroyable. Ils vont détenir à la fois les titres de SmackDown et de Raw et seront les champions incontestés par équipe de la promotion de la WWE. Roman reprendra mes micros hein, et il va dans un geste encore d'allégeance. Il va aller dire aux Uso qu'il s'attend à ce qu'ils reviennent vers eux, bien sûr, en tant que champion. Il va leur faire un gros câlin, un gros poutou du champion universel aux jumeaux. Et voilà, et la seule raison pour laquelle il exige autant d'eux de tout ça, bah c'est tout simplement parce qu'il les aime. Alors là, ma chère Rowdy Letty, c'est à toi que je m'adresse. Parce que là, on parle d'amour. Et voilà, le catch, on dit souvent la violence, le sang, la bagarre. Et là, tu vois, on a commencé ce Friday Night SmackDown dans l'amour.
Oui, dans l'amour. Et surtout, ils ont intérêt à ramener les ceintures, visiblement, puisque malgré le fait qu'ils les aiment, il leur a quand même dit « soit vous revenez champion, soit vous revenez pas ». Donc, ils ont intérêt, s'ils veulent pas devenir SDF, visiblement, à ramener les ceintures.
SDF, vous passez un long moment à l'hôpital aussi, parce qu'on sait que Roman Reigns a des accès de colère un petit peu dangereux. Donc,
c'est ça.
Et du coup, c'est parce que c'est la première fois qu'on en parle dans le cadre d'une review, et comment tu ressens un peu justement toutes ces promos de Roman Reigns depuis qu'il est devenu heel, là, le top heel de la WWE. Toi, t'as vu, voilà, pour le coup, son arrivée à la WWE, tout son passage en tant que babyface et toute sa carrière avec le Shield, etc. Donc du coup, maintenant, quand t'as ce mec monstrueux là qui débarque en tant que super méchant et qui détient tout l'or, ça te fait quoi comme effet?
Il a de la présence, quoi. Il a du charisme, il a oui, tout ce qu'il faut pour faire voilà, le bon heel, le bon chef de tribu et se faire respecter par le vestiaire, quoi.
Ouais, tu sais, il était très décrié quand il était babyface et tu faisais partie de cette team-là?
J'aimais plutôt pas mal, moi, quand il était babyface.
Ouais.
Oui, j'étais un peu déçue quand il a tourné heel, je me suis dit,
Ah
ah,
ouais.
qu'est-ce qu'ils font? Et finalement, en fait, j'aime bien ce nouveau clan, enfin, nouveau, qui est plus si nouveau que ça d'ailleurs, mais
Maintenant, ça fait
j'aime
2 ans,
bien.
mais
Voilà.
effectivement, ouais. Donc ça a marché sur toi et sur toi, papy, ça marche, l'amour?
L'amour de Roman, c'est plus de la pression que de la passion. Il les force en disant, en leur disant, attention les gars, si vous n'y arrivez pas, vous êtes, bah voilà, vous serez peut-être plus de la famille, hein. Peut-être que je trouverai un test ADN qui prouvera que vous êtes plus de la famille d'Elias que de la mienne. Voilà, donc c'est la pression de Roman, c'est compliqué. Moi, pour répondre à la question que tu ne m'as pas posée, eh ben, le Roman Face m'ennuyait parce qu'il a l'air tout pâteau et à chaque fois il a besoin de passer en mode badass pour intéresser un poil le public, sinon il bouffait à part bouffer de la bouffe pour chien, il faisait pas grand chose. Et donc son passage, il est quand même plus sympa à suivre que son passage face à mes yeux.
Poser la question parce que mon papy, le peuple de Catch-Up, connaît largement tes opinions absolument horribles.
Oui, mais je la
Donc,
donne quand même.
donc c'est pour ça que je me suis permis de m'adresser à Letty. Allez, on enchaîne. Alors, il y en avait un qui était très intéressé hein, par ce qui se passait pendant l'opener. C'était Sami Zayn hein, qui a mis son plus beau t-shirt de la Bloodline. J'ai aimé d'ailleurs parce que Ajus a dit qu'il était tout seul dans son cerveau hein, à vouloir penser qu'il faisait partie de la Bloodline. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Et ça nous emmène sur un truc direct puisque tout simplement, Sami Zayn, il va affronter Shinsuke Nakamura ce soir. Alors, je sais pas si vous avez fait, mais j'ai l'impression que Sami Zayn, on lui a un peu remixé sa musique aussi là. J'ai pas été super emballé par ça.
Ah, tout est remixé, hein, de toute façon.
Ouais, ça a été remixé. Hein. Shinsuke, lui, il a eu son entrée traditionnelle, mais voilà, je sais pas, Sami Zayn, ça m'a surpris. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et voilà. Et là, on va avoir, bah, écoutez. Un vrai match. Finalement, Shinsuke Nakamura, quand il va faire son entrée, d'ailleurs, il va faire un petit peu quelques grimaces à la Bloodline en passant. Je serais lui quand même, je me méfierais largement. On est parti dans un match qui va durer 10 minutes 30. Les gars vont avoir pas mal de temps pour un peu enchaîner et se mettre en valeur. Le japonais va bosser presque comme jamais. Enfin, il va quasiment pas poser toutes ses signature moves aux membres non officiels de la Bloodline. Il va même tenter de porter son Kinshasa sur Zayn, mais ça va pas marcher. Zayn va réussir à sortir du ring et va en profiter pour lui coller un gros Michinoku driver. Il va remonter sur le ring, il va espérer d'ailleurs gagner par décompte à l'extérieur, notre Sami Zayn, mais ça va pas marcher parce que Nakamura remontera à 9. Remontera à 9, Zayn le sortira à nouveau, il va essayer de le jeter par-dessus les barrières d'insécurité, mais ça va pas marcher. C'est Nakamura qui va réussir à envoyer balader Sami Zayn dans la zone du timekeeper. Et lorsque Zayn finira par remonter sur le ring, afin d'éviter à son tour un décompte à l'extérieur, hein, et ben du haut du turnbuckle, tranquille. Pépouze, le Shinsuke Nakamura, il va coller un Kinshasa sur l'arrière de la nuque de notre Québécois barbu-rouquin favori. Et pour l'emporter, victoire 1, 2, 3 de Nakamura. Je ne sais pas si on doit dire victoire gratuite, à quoi elle sert ou quoi que ce soit, mais en tout cas, le match en lui-même était présent, le match était là, mon papy. As-tu apprécié ce Japon versus Canada?
C'était un match honnête, honnête entre les deux. Pas apprécié plus que ça parce que j'ai encore du mal à m'enflammer pour Nakamura qui nous a fait trop de mal par le passé. Et donc du coup quand je le vois sur le ring, ça me fait bizarre. Bon, la musique de Zayn me dérange pas tant que ça. Alors elle est remixée à très longtemps. Ça fait comme 10 mois maintenant qu'il n'y a plus
Ouais, mais j'avais pas prêté
son
attention,
truc.
je crois, en fait.
D'accord. Alors en fait il garde en fait l'accroche des départs. Puis après il y a un truc un peu plus classique, un peu comme tous les morceaux qui ont été refaits récemment. Alors je sais plus. Je crois que dans le show il y en a un autre qui a été remixé. Peut-être bah, c'est Ricochet. Je vais voir qu'il y a aussi un qu'il y a son morceau qui remixait depuis peu. Mais faire de la parenthèse là-dessus pour par contre moi sur Zen, ce qui m'étonne c'est son style vestimentaire là depuis quelques temps. Alors certes c'est par le tour de la Bloodline et l'afficher, mais par contre il catch plus qu'en t-shirt quoi. Donc je sais pas si c'est pour mettre en valeur le t-shirt de la Bloodline ou si juste qu'il manque de shape. C'est en tout cas ça fait bizarre de le voir avec son pantalon, son t-shirt, ses cheveux, sa barbe, tout ça, ça fait limite Joe Clodo quoi, Samy en ce moment là. Je sais pas ce qu'il faut qu'il se ressaisisse un peu quoi. Mais bon, à voir si ça donnera par la suite. Là, c'est vraiment de la transition avec de la sous Bloodline en l'occurrence Sami Zayn versus un Nakamura qui est un sous catcher. Donc c'est sous intéressant pour moi.
Bah alors Letty, le Nakamura, t'inquiète, il prend cher, mais le pauvre, il a récupéré la ceinture de plomb 2021 au Catch-Up Awards en fin d'année là, donc malheureusement, il arrive pas à retrouver du crédit auprès de papy. Est-ce qu'il en retrouve auprès de toi?
Pas forcément non plus, parce que
aïe.
J'allais dire, au moins on le voit sur un ring, c'est déjà pas si mal. Enfin, il y a déjà une amélioration par rapport il y a du progrès. Après, le match en lui-même était plutôt bien, j'ai trouvé. Après, j'ai quand même un peu hâte de savoir ce qu'ils vont nous faire avec Samy, parce que là, à part se balader, d'être un peu sous Bloodline, effectivement, de se balader, d'essayer de rentrer, j'aimerais bien quand même qu'il se passe un truc, quoi, parce que soit qu'il le jette, soit je ne sais pas, mais voilà.
Qu'il existe une vraie interaction, on va dire, avec sa business, qui pour l'instant n'est pas forcément le cas, quoi.
C'est ça. En fait, il se balade un peu comme ça. Et il a des matchs, il catch, certes, mais dans quel but
Donc, si je te suis bien, je sens bien que ton cœur, quand même, entre les deux, balance plus vers Sami Zayn que vers Nakamura.
Oui, quand même, clairement.
Ah, c'est dur d'être pour Nakamura, quand même, hein.
Depuis qu'il était champion là, avec tout ce qu'il a fait ou pas fait plutôt.
Ouais, ou pas fait en tant que champion. En tant que
c'est trop de mal aux fans, Shinsuke là. C'est dur de lui pardonner. Hein.
C'est ça.
Et pourtant, apparemment, à Paris, il a été. Si vous avez écouté la review WWE Paris avec Raphaël hier, ringside, apparemment quand même, le Shinsuke, il arrive à avoir une belle pop encore. Hein. Est-ce que la c'est musique. Pas lié à c'est sa musique? Ouais, voilà, ça serait lié à son
thème
song.
À son entrée,
ouais. Ouais, son theme song est tellement populaire que du coup, on se dit, bon, tant pis, même si c'est Shinsuke, tant pis, on pop quand même, allez. Allez, Happy Corbin, les amis, continuons dans le bonheur, l'amour, décidément, puisque Happy Corbin est à SmackDown, et il est là pour un Happy Talk. Il est sur le ring, alors il a eu un beau décor, etc. Ringside, il y a trophée de la Battle Royale pour André the Giant. D'ailleurs, André the Giant, on en profite pour lui faire un bisou parce qu'il aurait fêté ses 76 ans cette semaine. Écoutez, Happy Corbin, il est happy, mais il est avec un visage un peu stoïque, un petit peu extatique. On sent que il y a quelque chose, et du coup, il vient s'installer à côté du trophée d'André, et celui-là même, d'ailleurs, on vous rappelle, qui a servi à blesser Madcap Moss. Hein. Et voilà, Happy Talks, quand même, il nous explique que il est grand, il est beau, il porte un chapeau à 20 000 $, une montre à 70 000, c'est un peu la fête, qu'il est content, il s'est enfin débarrassé de Madcap Moss. Moss, il a pas su profiter de sa position au moment où il était avec Happy Corbin, avec à ses côtés, quoi. Et donc, il a pas réussi à apprécier toutes les choses qu'avait faites pour lui cet homme. Comme un ingrat, en fait, hein, le grand méchant loup chauve a soufflé sur Madcap Moss. Oula, il est parti à l'hôpital. Et Corbin. Il fait pas grand chose d'autre, parce que au final, la seule chose que va nous offrir le Happy Corbin dans ce Happy Talk, c'est non pas un invité ou une interaction avec quelqu'un. En fait, personne ne va venir, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et Happy Corbin va tout simplement péter le trophée d'André le Géant, qui d'ailleurs, on vous rappelle au passage quand même, qui a été détenu par Happy Corbin, qui a gagné ce trophée lors d'un WrestleMania. Et ça sera à peu près tout. Papy, écoute, brisage de André the Géant, c'est quand même pas très sympathique, moi je trouve. Hein.
Ah non, mais quel connard ce Corbin. Alors moi, je l'ai trouvé puant, détestable, mais du coup, j'ai adoré ce segment parce que je me suis dit, Et il était vraiment une ordure complète dans ce segment et ça m'a vachement plu. Je me suis dit, ah, ça y est, ça c'est du Corbin que tu as envie de détester. Là, il est tellement détestable dans son segment au micro. Il était tellement affreux dans tout ce qu'il disait. Et derrière, il te finit en te massacrant le trophée André Le Géant. Il finit avec le petit bonhomme André Le Géant là, dans la main, là, en le crachant dessus. Là, c'était tellement puant que ça m'a beaucoup plu de la part du baron, enfin de l'ex-baron plutôt, de Happy là qui était détestable à souhait. Moi voilà, un heel comme ça, moi j'aime finalement parce que je trouve que voilà, t'as vraiment qu'une envie, c'est de le tarter sa tronche, quoi.
Je reconnais bien là le sadomasochisme de mon papy. Et toi Letty, est-ce que tu étais en mode j'ai envie de fouetter Happy Corbin ou au contraire c'est wouh, c'est la fête du slip avec Happy Corbin?
Non, pas trop. Non, après, il nous a fait, oui, du Corbin. Après, le segment lui-même, bon, ben voilà, il nous a fait du bon Corbin. Ce que moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est où ils veulent en venir, pareil, avec cette histoire, puisque, bon, ben, Moss, il est blessé, bon, ben, voilà. Et où on va? Parce que, enfin, pour moi, le dernier match, déjà à Backlash, je sais pas ce que ça faisait dans le pay-per-view, mais bon, ça aurait pu clôturer un peu la rivalité. Et je trouve que ça traîne un peu en longueur, en fait. Alors, je ne sais pas s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire avec lui après, mais ça commence à devenir un peu long, je trouve.
Je comprends. Et moi, ce que je pige pas trop, en fait, finalement, c'est qu'il soit seul, là, dans ce truc-là. On l'a balancé sur un Happy Talk. Je ne sais pas, Papy, tu as peut-être une théorie, hein, mais le mec, il vient, il casse un trophée, il blablate en faisant des métaphores, bof. Pas fantastique quand même, tu vois, et au final, y a rien, il se passe rien, y a personne qui vient, y a pas d'interaction, c'était quoi le but là?
Ah, bon, c'est un truc de transition, c'est justement qu'il se fasse haïr avec justement que lui dans le ring, où du coup, tu peux faire que le huer, le temps de que, alors soit, je sais pas encore si c'est Madcap qui va revenir ou si c'est un nouveau face qui va s'y aller. Mais clairement, pour moi, c'est Baron Corbin, c'est toujours un taulier du côté heel, et il faut le démolir pour un face, quoi. Alors, j'aurais tendance à penser que l'histoire voudrait que Madcap revienne quand même, mais assez vite pour justement reprendre de la pop en démolissant Corbin. Il y a le seul truc qui me perturbe, c'est la promo de Madcap avant de partir, qui elle par contre n'était pas terrible du tout. Il nous parlait de Money in the Bank, tout ça, et Money in the Bank, c'est pas demain, quoi. Donc, si jamais lui compte revenir dans 2 mois, ça risque d'être long d'avoir Corbin tout seul, quoi. Donc, c'est plus ça qui est... En fait, ce qui me rend perplexe, c'est plus la promo de Madcap Moss la semaine dernière que celle de Corbin de cette semaine que j'ai trouvé très bonne, moi.
Madcap Moss, il bruisse des bruits, il va être un peu repackagé apparemment. Hein. Donc il faut s'attendre certainement. Ouais. Alors je sais pas, je peux pas t'en donner plus en termes de est-ce que c'est par rapport à l'alignement, par rapport à des choses comme ça. Je sais pas, mais ils annonceraient qu'il y aurait un certain repackaging de Madcap Moss, mais apparemment ils y croient fort à Madcap Moss, hein, à la WWE. Hein, donc.
Mais c'est pour ça que je pensais que peut-être qu'il leur sortirait pour finaliser sa pop, de leur mettre contre Corbin qui est vraiment un. Autant t'as des gens qui aspirent le charisme, lui il aspire les huées, quoi. C'est dès qu'il est là, t'as toutes les huées qui tombent, quoi.
Ah oui, c'est le rôle en chef du heel, c'est déjà pas mal, quoi. On continue les amis, on continue avec un match de catch. Alors la semaine dernière, ils avaient une interaction Drew Gulak et Ricochet et a tapé la discute et il s'était fait lâchement agresser par nos amis austro-allemands. Écoutez, c'est de retour puisqu'on a un match. On a Drew Gulak qui est prêt pour une session Atemi ou pas prêt au choix et qui va affronter Gunther, présenté toujours par Ludwig Kaiser. Et ça va pas rigoler. Ça va durer, ça va durer 1 minute 04 exactement. Alors Drew Gulak, il va faire l'erreur en plus qu'il faut pas faire, c'est-à-dire qu'il va vouloir coller lui-même un Atemi à Gunther. Et donc, il va réussir quand même à coller cet Atemi. Mais là, à partir de là, Gunther, il va lui choper le bras et il va lui enquiller une série d'Atemi, une powerbomb, 1, 2, 3, victoire de l'Autrichien sans coup férir. Tranquille. Mais à la fin du match, Ricky la Belleville est là. Et Ricky la Belleville, qu'est-ce qu'il vient faire? Eh ben, il vient aider son poteau Drew Gulak qui est dans la sauce. Et alors que Gunther, il continuait l'assaut en plus, hein, il continuait à le tabasser, quoi. Et donc ça sent peut-être, mes amis, Letty, tu vas me dire tout de suite ce que t'en penses, un petit match pour le titre intercontinental déjà, et entre Gunther et Ricochet, pourquoi pas?
Ce serait pas mal parce que enfin, ces derniers temps, Ricochet, il a une ceinture, c'est bien, mais on ne le voit pas très souvent. Je trouve que c'est un peu délaissé quand même au niveau des ceintures secondaires et ce serait bien. Puis je pense que ça pourrait donner des bons matchs contre Gunther. La puissance, Ricochet plus la technique, ça pourrait rendre pas mal.
Highfly versus Powerhouse, moi j'aime bien aussi cette combinaison. Papy?
Ouais, c'est souvent une combinaison qui gage le succès. Je pense aussi que c'est quand vous avez un programme de Gunther de la division intercontinentale pour aller certainement chercher sa ceinture à Ricochet. Là, pour le coup, je serais très étonné qu'il lui prenne pas le titre. On va peut-être avoir une petite période de transition en 2 contre 2, avec Gulak qui restera un petit peu en affaire. Bah, comme quoi, Gulak, c'est sympa pour lui, ça lui permet de catcher encore un petit peu. C'est marrant, c'est moi Gulak, j'aurais bien vu dans l'équipe de Gunther en fait. Un mec comme ça qui est un petit peu spécialisé des soumissions un peu dur, j'aurais bien vu comme ça, mais bon après il va peut-être juste faire le nombre dans la rivalité le temps que Gunther se décide à prendre le titre à Ricochet.
Ça brise un peu mon petit cœur ce que tu dis là, parce que moi, effectivement, moi aussi, j'aurais aimé qu'il y ait un troisième dans ce clan-là d'Imperium, enfin, même s'il s'appelle plus comme ça. Mais parce que moi, Fabien Eichner me manque beaucoup, l'italien. Je trouve que j'ai vraiment jamais compris pourquoi il avait été séparé de cette team. Alors pourquoi pas, ouais, Drew Gulak, moi je trouve aussi que ça aurait pu coller. Après, le seul truc, bon, c'est un américain, tout ça, quoi. Ça aurait été bien d'avoir un européen, un troisième européen dans cette team-là. Moi c'est un petit peu mon regret. Après, moi je suis assez content de cette rivalité là, hein. Gunther Ricky, moi ça me plaît vachement quoi. J'aime beaucoup les deux catcheurs dans deux styles totalement différents. Donc moi je suis assez emballé par la rivalité en elle-même. Et pour revenir sur ce que disait Letty à propos de la faiblesse des titres intermédiaires, et ben moi en fait je me dis que finalement si on défend plus le titre US et le titre intercontinental dans les pay-per-view, et c'est ce qui se passe depuis quasiment un an et demi. Le titre intercontinental en est un exemple terrible. Et bah, dans ces cas-là, on les transforme dans des vrais titres télévision, quoi. Des titres qui sont défendus dans les weekly, avec les matchs dans les weekly. Et puis voilà, on n'en parle plus de cette histoire de pay-per-view. Mais je ne comprends pas, en fait, la gestion de ces titres intermédiaires, alors qu'on pourra en faire tout ça. On dit, voilà, l'intercontinental et le US, dorénavant, c'est des titres télévision, ils seront défendus dans les weekly, voilà, les rivalités se passeront dans les weekly, etc. Et puis, point barre. Et je trouve qu'en fait, la WWE, sur ce coup-là, se donne un peu le bâton pour se faire battre, non?
Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste qu'ils ont plus d'intérêt pour les titres, en fait, quels qu'ils soient.
Mais c'est terrible, ça, ce que tu dis
Parce
là.
que même les titres, tu vois, qu'ils fusionnent toutes les ceintures suprêmes, les ceintures secondaires, elles sont plus défendues, elles sont plus mises en avant. Parce que, enfin, c'est le truc, c'est la ceinture, c'est comme ça serait, je sais pas moi, un pins ou un grade de l'armée, mais finalement, les gars, c'est plus une division ou une cible à obtenir, quoi. Le mec est champion, personne va le chercher. Il y a des mecs qui sont dans la carte, ils vont jamais chercher les ceintures. J'en parle souvent de Drew McIntyre, par exemple, hein, qui, depuis qu'il a SmackDown, il a jamais eu la quelconque envie d'avoir une ceinture. Voilà, ça fait bientôt, ça fait quoi? Il est arrivé en novembre, donc ça fait 6 mois qu'il est là-bas. Il s'intéresse pas aux ceintures, il est bien. Et puis t'as beaucoup de ceintures qui sont jamais défendues. Tu sais, le titre intercontinental pendant un an, peut-être jamais défendu. Pas grave, hein, mais je crois que c'est parce que c'est la période du monde de la WWE qui fait que bah, les ceintures ne sont plus le sujet principal des shows.
Roddy Letty, c'est quoi toi ton rapport un peu au titre intercontinental et titre US quoi? Il y a eu des périodes où tu kiffais à fond ces divisions-là ou comment tu ressentais ça toi?
Oui, il y a quelques années, c'était quand même bien mis en avant, en fait. Enfin, ils étaient dans tous les pay-per-view et puis même en weekly, il y avait quand même des champions qu'on voyait et qui n'avaient pas juste le titre de champion, mais qu'on voyait jamais sur un ring, en fait. Ils étaient. Mais là, je suis d'accord avec Papy, en fait. Ils s'en fichent. On a l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire, donc bon, on les laisse comme ça. Et puis peut-être que les fans vont oublier que ces ceintures existent. Je sais pas. C'est curieux en fait, je trouve, comme façon d'organiser un peu le roster.
Non, on l'oublie pas parce que nous, à Catch-Up, on en parle. Donc, tu vois, c'est que les fans l'oublient pas, quoi. Donc, moi, je sais pas, quoi. Alors, bon, allez, est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer maintenant? Hélène, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que
Ah bah tant pis
un
alors.
nouveau personnage est arrivé. Et ce nouveau personnage, il vient tout simplement dans le bureau de l'officiel, hein, de Adam Pearce, et il va se présenter comme Max Dupri. Alors, êtes-vous prêt pour Max Dupri? Et parce que Max Dupri va nous expliquer qu'il tient une agence de talents, hein, de mannequins, il recherche des superstars qui pourraient être des représentants et de la Fashion Week et de WrestleMania. Il nous explique qu'il a été embauché par Sonya Deville, hein, avant qu'elle soit destituée de ses fonctions d'officiel. Donc, Adam Pearce, il est un petit peu dubitatif, il lui dit « Ouais, bon, écoute, tu sais, Sonya Deville, elle a un peu vécu ce que vit la majeure partie des gens à la WWE, c'est-à-dire qu'elle s'est fait dégager d'un poste, tu vois. Elle a été rétrogradée, donc bon, on en a un peu rien à carrer finalement de ton truc, quoi. Mais là, le Max Dupri, il est malin parce qu'il dit que attention, j'ai signé un contrat et donc on va se revoir. Alors pour vous le situer un peu, le Max Dupri, plutôt beau gosse, la quarantaine triomphante, petite chemise, petite veste. Sympa, mais papy, n'a-t-on pas déjà vu cet homme quelque part ?
Il me semble l'avoir croisé une nuit à Los Angeles.
Ah !
C'était une LA Night. Ah. Et il me semble que j'avais déjà vu ce gars-là. Mais je ne sais pas si c'est le même gars dont on parle.
Eh bien, il me semble que oui, car peuple de Catch Up, si vous n'avez pas vu SmackDown et que vous contentez d'écouter Catch Up, et alors là, dans ce cas-là, on vous fait des bisous interstellaires, eh bien, tout simplement, Max Dupri, c'est LA Knight, oui, l'ancien de NXT, un ancien de la TNA, un ancien de la NWA, un ancien de la Ring of Honor, un mec qui est passé partout sur le circuit indépendant, qui a d'ailleurs croisé Adam Pearce à la NWA, donc c'était assez drôle, finalement, qu'ils commencent ensemble, une espèce de clin d'œil du destin, on se retrouve, je sais pas, au moins 15 ans plus tard, les deux gars se retrouvent à SmackDown dans le plus gros show dans le monde merveilleux du show bleu. Et ben écoute, ça nous promet. Letty, est-ce que tu connaissais notre Max Dupri?
Pas du tout. Je viens d'apprendre. Non, pas du tout. Moi, voilà, j'étais juste étonnée. Je me suis dit, bon, voilà, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais ça m'avait pas,
c'est voilà, intéressant
pas parce marqué que c'est plus que ça.
C'est intéressant parce que ça veut dire tu suis pas NXT, donc du coup tu vois d'un œil frais.
NXT, c'est vraiment de temps en temps, mais pas chaque semaine, non, pas très assidu à ce niveau-là.
Ah, mais moi je trouve que c'est une bonne chose parce que comme ça tu vois d'un œil frais, tu vois les arrivées dans le main roster. Et donc voilà, du coup tu vois quelle est ta première impression là quand tu vois un Max Dupri. En plus tu as vu que son visage et ses épaules. Donc quelle est la première sensation que tu as eue en le voyant?
Bah, sur le coup, je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fout là, déjà? Et puis voilà, après son explication avec Sonya Deville qui l'a embauché, tout ça, je me dis, bon, ben voilà, on va en apprendre, je pense, petit à petit, ça va finir par donner quelque chose. Voilà, peut-être dans un mois, par là. Voilà, chaque semaine, un petit morceau et on verra.
Oui, en plus, la WWE est assez habituée à nous balancer un mec comme ça et puis après le faire venir pendant des semaines et des semaines, soit dans une cave, soit pour faire des promos, soit bref. Bon, c'est une grande habitude de la WWE. Allez, on retrouve.
Ce qui est bien, c'est ce qui est surprenant d'ailleurs. Alors tonton, ne balance aucune des rumeurs, s'il te plaît. Parce que je sais qu'il y en a qui traînent depuis, qui aient fait des tests et tout ça avant en Dark Show. Mais il vient en tant que manager, a priori, quand on se présente comme ça, alors que c'est un catcheur, enfin, pour moi, c'est toujours un catcheur actif.
Oui.
Qui d'ailleurs était assez amusant à NXT parce qu'en fait, il faisait deux têtes de plus que tout le monde et peut-être 50 kilos de plus que tout le monde. C'est de la grosse barbaque.
Clairement.
Max Dupri. Donc c'est marrant qu'il, alors, certes, il est, bah, comme tu dis, il a bien roulé sa bosse, donc il a déjà la quarantaine. Donc peut-être qu'il va directement passer en tant que, parce qu'il a du micro, hein, il est très bon au micro, donc il va peut-être directement passer pour coacher des jeunes, j'en sais rien, c'est la question que je me pose, est-ce que du coup ils vont faire une entourloupe en disant, bah voilà, ton contrat que t'as signé il concernait que toi, pas tes poulains, donc il n'y a que toi qui va y aller et tu vas le faire coacher, ou est-ce qu'il va vraiment venir avec des petits jeunes qui va encadrer, c'est la question que je me pose la prochaine semaine, et je ne veux pas de spoiler.
Ouais, non, alors je lui ai donné la quarantaine, je l'avais un petit peu vieilli, il a 39 ans exactement, quoi. Mais ouais. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est un beau gabarit, quoi, et c'est un mec qui a du micro. C'est un type qui avait eu une belle rivalité à NXT avec Cameron Grimes pour le ils avaient sorti spécialement un peu pour lui le Mylon Dollar Championship. Et c'est un type qui est en qui moi j'ai plutôt confiance. C'est un mec qui fait 1m88 pour 105 kilos. Je l'aurais même vu un peu plus lourd que ça d'ailleurs. Et c'est un beau gabarit à voir. Donc c'est effectivement, s'il l'utilise en manager, ça peut être bizarre de plus en avoir catché, mais c'est peut-être aussi un choix. Après, bon, ça, on verra bien la suite. Allez, on revient sur notre fil bleu. Le fil bleu, c'était Kayla Braxton qui était en interview avec Léa Cabro. Voilà, Kayla va leur balancer la sauce habituelle. Les Ouzo, ils ont l'air durs, ils sont sûrs de ce soir. Ça va chauffer pour vous. Riddle, il dit que lui, il n'y a pas de problème. Il a battu Jay et Jimmy en solo toutes les semaines, là, ces dernières semaines. Du coup, Randy, il va dire que lui, c'est pareil. Ça, ils savent que, voilà, ils vont devoir. Il sait que si les Ouzo perdent, si les Ouzo échouent, pardon, ils vont devoir rendre des comptes à Roman Reigns et que donc ça va se finir comme d'habitude parce qu'ils vont être battus par les trois lettres les plus destructives du business. Ouais, je suis courant, moi, ça s'arrête là en fait, effectivement, quoi. Il y avait juste une petite Arcabro, interview. Voilà. Oui, oui, petite interview à Arcabro pour nous les présenter avant le Vinyl. Ah, vous étiez chauds tous les deux là, quand même, parce que là, quand même, ce soir, on nous annonçait un match monstrueux, quoi. Peut-être le plus gros match de l'année concernant la Tag Team Division, quoi.
Moi, je me pose la question à ce moment-là, et ce sera. D'ailleurs, j'en reparlerai quand je finirai le show. À ce moment-là, je me pose la question de savoir est-ce qu'on va vraiment l'avoir ce match-là ou pas, en fait. Parce que. C'est tellement surprenant de le voir en weekly que du coup, bah, je me dis est-ce qu'il nous prépare une entourloupe ? Est-ce qu'on va vraiment voir le match ? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions que je pose. Mais en tout cas, je me dis, jusque-là, ça fait très vrai comme lancement de match.
D'accord, ouais. Letty, toi, t'avais des doutes là-dessus ou t'étais juste impatiente en fait de l'arrivée du main event ?
Bah, j'attendais le main event avec pas mal d'impatience. Par contre, je me demandais si ça irait quand même jusqu'au bout. Au niveau du match, je pensais qu'on l'aurait sans problème, ouais. Mais que peut-être au dernier moment, ils allaient arriver, enfin Paul Heyman ou je sais pas qui, ou Roman. Non, finalement, j'ai changé d'avis, on n'unifie pas les titres. Ouais. Mais le match, je pensais qu'il n'y avait pas de souci, mais l'unification, j'y croyais pas en fait. Jusqu'au bout, je pensais qu'il allait se passer un truc. Pour pas le faire.
De l'overbooking ou voilà, des interférences.
Ouais, ça aurait pu avoir une disqualification qui faisait que les ceintures pouvaient pas changer. Enfin, tu vois,
oui, voilà,
à ce moment-là du show, t'as 12 000 options, quoi.
Ou un double décompte à l'extérieur à la con, voilà. Ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin bref, effectivement, il pouvait se passer encore plein de choses, vous avez bien raison, quoi. Allez, on va voir un package vidéo sur ce qui s'était passé la semaine dernière entre Raquel Rodriguez et Ronda Rousey. Au passage, une belle mise en avant avec un beau vidéo package pour notre Raquel Rodriguez. Elle va avoir un match ce soir puisqu'elle va affronter Shotzi. Et juste avant, il va y avoir un petit segment dans les backstage où il y a Shotzi et Aliyah qui sont en train de se disputer, quoi. Parce que Shotzi, elle avait enfermé Aliyah dans les vestiaires pour qu'elle ne réponde pas au challenge de Ronda. Mais la pauvre Aliyah, elle va tout simplement disparaître du segment parce qu'il y a Raquel qui va arriver du haut de son 1m80 et qui va commencer à se trash-talker avec Shotzi, qui lui dit d'ailleurs quoi, qu'elle a la physique d'une guerrière, mais que c'est 1m80 de déception, quoi. Et qu'en fait, elle est faible. Et l'autre, elle a fait « What ? Je suis faible ? Ok, allez, viens dans le ring, ma cocotte. » Et là, Raquel et Shotzi, elles se retrouvent, et pour un match qui va pas traîner longtemps, ça va durer 2 petites minutes 46. Alors Shotzi va avoir quand même un peu droit à de l'offensive et tout ça. Au début, elle va même pouvoir un peu essayer de lancer un peu le public sur elle. Mais Raquel est bien over. Et Raquel, surtout, elle est archi puissante. Beaucoup trop puissante pour Shotzi. Elle va placer deux follow-away slams modifiés d'ailleurs, quoi. Je crois que notre ami Christophe a juste signalé à la Razor Ramon. Et derrière, le spinning corkscrew et son one arm power bomb qui, moi, alors là, m'a fait wow. Je me suis rappelé d'un stand and deliver, mon papy, qu'on avait commenté ensemble, où elle avait passé cette prise. Donc, vainqueur sans surprise, Raquel Rodriguez, qui est en train de s'installer tranquillou dans le main roster du monde merveilleux du show bleu, Letty.
Oui, et puis ça fait plaisir de la découvrir, puisque donc je la découvre depuis quelques semaines. Elle est puissante, elle est au micro, elle se débrouille pas trop mal non plus, je trouve, enfin pour le peu qu'on l'a entendu parler. Et ça rajoute quand même quelque chose dans cette division qui est quand même loin d'être au top à SmackDown.
Est-ce que tu la trouves crédible, quoi ? Est-ce que quand elle arrive, tu vois, est-ce qu'elle te fait penser comme une Bianca Belair, quoi, qui, tu vois, voilà, physiquement, là, Raquel, tu te dis, ça rigole pas dans le ring, quoi.
Ah oui, bah physiquement, puis même au niveau du regard, tout ça, enfin on voit que oui, qu'elle est puissante, elle le sait, et voilà, faut se méfier, quoi, quand on est en face. Hein.
Papy, Madame Rodriguez.
Madame Rodriguez, bah moi j'avais déjà donné mon avis là-dessus quand elle est arrivée, et c'est un peu le même avis que j'avais quand elle était NXT. c'est que je trouve qu'elle a beaucoup beaucoup de qualité sur notamment physiquement dans ses déplacements et c'est les prises qu'elle balance dans le ring, c'est monstrueux. Par contre, je trouve qu'elle a encore un poil de mal à tenir son personnage dans le ring en fait. Et finalement, je suis d'accord avec Chotzi quand elle dit que pour l'instant Raquel elle est trop lentille. Je suis d'accord, moi, Raquel, elle devrait tuer à peu près tout le monde en 2 minutes, quoi. Elle passe trop de temps dans le ring. Et alors, ça lui permet de se former, mais d'un autre côté, moi, j'aimerais vraiment qu'elle soit destructrice à mort, quoi. Enfin, qu'elle soit encore plus impressionnante. Après, et c'est là, du coup, que j'ai fait mon prono avec Prafa la semaine dernière. Je me suis bien gouré. Moi, je pensais vraiment que c'était que la division féminine allait entièrement tourner autour de Ronda. Et aller enchaîner les Open Challenge en voiture, voilà, et éclater tout le monde. Et manifestement, alors c'est peut-être aussi du fait de la petite embrouille qu'a eu Arrow, Raquel, ils ont décidé de centrer un peu l'histoire sur la construction du personnage de Raquel. Ça me semblait un peu tôt à mon goût. Après, à voir, ça peut-être le faire quand même, quoi, s'ils prennent le temps. De faire les choses bien. De toute façon, comme l'étude disait, la division féminine est tellement pauvre côté SmackDown que ça fait pas de mal qu'ils se décident à construire un personnage.
Oui, je suis bien d'accord. Ouais, c'est important. Et puis moi, pour le mot là-dessus, c'est que j'aurais une petite pensée pour Shotzi aussi, quoi, parce que bon, Aliyah s'est fait tellement enterrer dans le segment là que la low-cardeuse est repartie très très loin dans la low-card. Mais par exemple, Shotzi, moi c'est un personnage que j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un vrai personnage, Shotzi, pour le coup. Alors, ça, c'est facile de dire qu'elle est green, mais elle aussi, elle a besoin de bosser, etc. Mais il lui donne du temps d'antenne. C'est plutôt pas mal. Et faut que ça continue comme ça, quoi. Donc, mais c'est Raquel. Là, on sent que c'est Raquel le projet. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça me plaît bien comme ça. Alors, évidemment, j'ai Vince McMahon qui arrête pas de me téléphoner depuis tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il dit, Vince ?
Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, les mecs ? Vous avez dit du mal des ceintures intercontinentales et US. Ah, ça y est, il a raccroché. Ah, mes amis, on retrouve Xavier Woods en backstage. Il nous explique, lui, il nous raconte de la semaine dernière, hein, puisqu'ils sont en feud avec les grosses brutes Butch, Ridgeland et Sheamus. Il nous dit que la semaine dernière, Butch a eu la plus grosse victoire de sa carrière uniquement par le fait qu'il était secondé justement par les deux autres grosses brutasses. Et donc, on va bien voir de quoi il est capable ce soir. On enchaîne avec un single match, Xavier Woods versus Butch. Butch, toujours en mode archi-agressif, archi-énervé, et tout est là dans son gimmick d'ailleurs. Et ça va être un match assez court aussi, puisque ça va durer 3 minutes 28. Tout va être basé sur l'envie qu'a Butch de dévorer, tout simplement, je crois, Xavier Woods. S'il pouvait le poser en brochette sur la plancha, il se gênerait pas, mais... Notre ami Xavier Woods, il ne faut pas oublier que cet ami a été multi-champion tag team. Il a été King of the Ring, c'est pas n'importe qui, et il connaît bien la musique à SmackDown. Et la meilleure des musiques à SmackDown, c'est le Small Package. Alors il a même droit à son nom dorénavant, Xavier Woods, j'avais oublié ça, puisqu'on l'appelle son Small Package à notre Xavier Woods, on l'appelle le Bag Woods. Et j'ai trouvé ça assez énorme qu'un mec ait réussi à avoir un nom de finisher sur un roll-up. Victoire de Xavier Woods. Vous connaissez la procédure après le match, Butch va traverser la foule. Sheamus et Ridgeland vont venir surprendre Xavier Woods devant le titre de Tantron. Butch va venir attaquer Xavier par derrière, ça va tabasser. Et finalement, les deux grands vont prendre le petit, hein, et puis vont essayer de le calmer tranquillou tout en étant hilar. Ainsi s'achève ce segment, mon papy. Les Anglais, enfin les Britanniques, continuent leur mode destruction, mais Xavier Woods reste un filou.
Xavier Woods a perdu sa couronne. Hein, j'avais déjà vu la semaine dernière. Il l'a oublié, mais non, il n'est plus King Woods. C'est vraiment Xavier Woods désormais. Il est annoncé comme ça aussi. Oui. Je trouve ça un peu triste, hein, parce qu'il avait l'air de prendre son rôle de King of the Ring au sérieux, puis ça a été enterré extrêmement vite, cette couronne-là, tandis que tu vois une Zelina Vega qui est Queen Zelina, par contre, elle le porte toujours, alors qu'elle a jamais rien fait pour cette ceinture. Bon, c'est les mystères parfois des... Ben voilà, un titre de plus qui disparaît. Hein, il n'y a pas de titre à WWE. C'est n'existe pas. Et concernant le truc, Woods, ouais, qui est toujours l'homme fort du UD, hein, depuis quelques temps, qui est un peu comme Riddle et Corton, finalement, c'est celui qui gagne les matchs. Et là, qui est pris par le nombre. Je sais pas si on en parle tout de suite ou pas, mais plus tard, en fait, ils referont un segment backstage où Woods est interviewé et il annonce que il redéfie les Britanniques la semaine prochaine et que du coup, comme ils sont que deux, vu que Biggie est toujours blessé, il va trouver un troisième gars, un pote à lui qui va permettre de compléter l'équipe. Donc, je suis impatient de voir ça parce que du coup, moi, je pense que cette rivalité n'est faite que pour un 3 contre 3. Et si I est vraiment blessé longtemps, c'est pas plus mal qu'il fasse comme ce match en choisissant une première personne. Et pour le coup, je n'ai aucune idée de qui ça peut être, même si je me demande ça pourrait pas être McIntyre qui a tellement été éjecté du main event que ça lui ferait pas de mal de retomber sur cette rivalité-là.
Letty, t'aimes bien les protagonistes, on va dire, là, de cette rivalité-là, les New Day, Xavier Woods, Kofi Kingston, tout ça, face à nos Britanniques, là, Butch, Sheamus, Ridge Holland, c'est un petit nouveau aussi, lui.
Oui, après, je les aime bien un petit peu tous, en fait, ça va. Enfin, je trouve qu'ils sont dans leur personnage, il n'y a pas de souci. Après, ouais, c'est bien, je suis d'accord avec Papy que ça arrive à un 3 contre 3, parce qu'en fait, là, avec les semaines, ça tourne un peu. Et toujours la même chose, en fait. Voilà, il s'énerve, Butch, il part dans le public, il revient, enfin, ils le retiennent. Ça se répète, en fait. Et dans la mesure où Biggie est blessé, enfin, ça fait quand même un moment maintenant, je trouve qu'ils ont mis quand même longtemps avant de se dire qu'il fallait le remplacer, en fait. Mais j'ai hâte de voir, par contre, qui est la troisième personne, et je pense que McIntyre, effectivement, ça pourrait être une bonne idée.
Ouais, pourquoi pas McIntyre, ouais. Je crois qu'après, le problème, c'est que Xavier Woods, comme Kofi Kingston, a aussi chopé une blessure pendant un laps de temps, ce qui les a encore retardés. Et je pense aussi qu'ils espéraient quand même que Biggie, ça soit moins grave et qu'ils reviennent beaucoup plus vite. Mais malheureusement, tous les reports sur Biggie disent que là, il est out pour encore un sacré paquet de temps. Donc, malheureusement pour Biggie, c'est triste, mais voilà, ça a été archi sérieux là, et donc il va falloir attendre. Donc, pourquoi pas, mes amis, le bel homme, voilà, moi je suis totalement favorable à ces idées. Allez, on arrive sur l'affaire de la semaine, avant d'attaquer notre main event, parce que Michael Cole, alors ça, moi je suis très curieux d'avoir votre avis à tous les deux là-dessus, puisque Michael Cole a annoncé en direct à la télé que Sasha Banks et Naomi étaient suspendus, qu'un tournoi par équipe allait donc couronner des nouvelles championnes dans cette division féminine. Et il a ajouté également que les Sasha et Naomi avaient déçu des millions and millions de fans, etc. Enfin, a eu presque un... Comment dirais-je ça ? Presque un avis personnel, même si je pense que c'est pas du tout le cas. Mais c'était assez étrange. J'ai trouvé que c'était assez étrange de la part de Michael Cole, avec un Pat McAfee totalement silencieux, tout se passait sur son visage et ses yeux. Et donc voilà, donc ça y est, c'en est bien terminé pour le titre par équipe féminin. Ma Roddy Lady, c'est un petit peu tristounet tout ça. Et puis alors, j'ai envie de te dire, un tournoi par équipe chez les filles, ça va être compliqué pour nous faire un beau tournoi et trouver suffisamment d'équipe.
Oui, ça va être plus que compliqué, même à mon avis. S'ils trouvent quatre équipes, ce sera déjà pas mal. Mais moi, je suis encore un peu choquée en fait par cette histoire parce que, un peu comme vous l'aviez dit dans la review de Raw, je pensais que c'était un work en fait ou que ça allait le devenir. Voilà, ils allaient trouver un accord et voilà. Et je pensais vraiment pas que ça en arriverait là parce que là, visiblement, enfin, ils ont retiré le merchandising, ils ont retiré un peu tout en fait, ils les ont enlevés de partout. Naomi a enlevé, je crois, toutes les mentions à la WWE sur tous ses comptes réseaux sociaux, tout ça. Enfin, je suis un peu étonnée, en fait. Je ne pensais pas que ça en arriverait là et qu'ils se sépareraient de deux championnes, en fait.
Ah, ils ne s'en sont pas séparés. Ils ont annoncé une
suspension. Oui, elles sont suspendues.
Mais tu as raison, de préciser qu'effectivement, toute mention, en fait, de Sasha et Naomi ont été retirées à la WWE, que ce soit le roster, le merchandising, les réseaux sociaux, etc. etc. Elles ont disparu. Elles ont été « cancel », comme disent les jeunes. La cancel culture a frappé. Et après, Letty, sur un avis personnel à toi, Sasha et Naomi, comment tu l'as ressenti, ce no-show de lundi ? T'es plutôt dans leur sens ? Comment tu le ressens ?
Après, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, à part ce qui a été dit, comme ça, j'ai pas regardé sur les réseaux si des choses s'étaient dites ou pas, mais... Après, qu'elles ne soient pas d'accord, bon, bah, c'est une chose. Après, elles auraient pu quand même rester ou s'exprimer, enfin, je ne sais pas, trouver un arrangement ou autre chose. Surtout que si elles étaient effectivement destinées chacune à aller chercher une championne, je ne comprends pas trop de quoi elles se plaignent, en fait.
Ouais,
J'ai
ouais, ouais.
un peu de mal avec ça, en fait.
Ouais, je comprends, ouais. Papy, toi, de ton côté, comment tu ressens cette affaire, cette fameuse affaire? On en a parlé déjà un peu ensemble pour Monday
Ouais.
Night Raw.
Bah, là j'ai rien de plus par rapport à l'affaire elle-même. De toute façon, on n'en sait pas plus. Donc, je vais pas trop comment dire me projeter là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement le segment du soir. Et du coup, alors Michael Cole qui fait l'annonce. Alors Michael Cole est un employé. Par contre, c'est pas l'employé lambda. Je pense Michael Cole, il est plutôt bien placé avec un rôle important au sein de la Alors, pas de la direction de l'entreprise, mais par contre, je pense que bah, si dans une entreprise, on dirait que c'est un des cadres de l'entreprise, Michael Cole.
Ouais.
Et donc, du coup, je pense que c'est pas anodin que celui qui prenne le micro, qui gère un peu l'affaire. Tu vois, c'est pas comme Corey Graves qui aurait répété directement ce qu'on lui disait en direct. Là, Michael Cole, c'est bah voilà, tu reprends la boîte, c'est toi qui fait le truc et il fait le truc. Et d'ailleurs, bah, McAfee, il sait qu'il a pas à réagir. Et bah il écoute juste et finit juste par un OK, c'est bon. Et puis hop, il passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait ce segment-là à passer, puis il l'a laissé passer. Ça n'empêche que ça peut très bien revenir sur du kayfabe, même si c'était pas le cas à la base. Ils peuvent très bien dire justement, bah, enfin, l'histoire de la paire de ceinture, ça peut très bien être dans une histoire racontée. Demain, ils peuvent très bien leur virer tous les sponsors, enfin, les ventes, les machins, tout ça, et puis qu'elles reviennent en mode vengeuse, style, bah voilà quoi, on nous a tout retiré, on repart de zéro, j'en sais rien. Enfin, je pense qu'ils peuvent toujours, quoi qu'il arrive, rattraper le coup d'art s'ils ont envie. Après, c'est peut-être aussi l'effet inverse, et c'est pour ça que enfin, tu vois, c'est compliqué d'en parler. C'est peut-être aussi qu'ils veulent officialiser les choses, parce que dans le cadre d'une rupture qui serait assez violente, peut-être qu'ils ont besoin d'acter certains trucs. Après, enfin, tu vois, je me dis ça, mais d'autre côté, la WWE, jusque-là, ça les a jamais trop embêtés de virer des gens sans trop de motifs, quoi. Donc, pourquoi ils prennent autant le temps de mettre les motifs sur la table, j'arrive pas trop encore à me le définir. Moi, je pense que c'est toujours possible qu'ils puissent rattraper le coup avec une histoire qui rebondit sur l'affaire. Par contre, elles vont prendre cher. Ça, c'est un peu ce que je pense quand même.
Ouais, on aura l'occasion d'en reparler à l'antenne de toute façon parce que cette affaire elle est loin d'être terminée parce que entre le Smi Work, moi je maintiens ma position, hein, j'arrive pas à croire que la WWE se sépare de Sasha et de Naomi. Mais pour moi cette suspension elle était finalement logique. Ça, ce côté-là. Moi j'ai surtout été étonné par ce qu'a dit Michael Cole. Après tout le reste, si vous voulez, pour moi il n'y a pas de problème. On a un tournoi maintenant. Je suis curieux de voir combien d'équipes vont être impliquées dans ce tournoi. Le titre est vacant, c'est parti. Moi ça me va tout à fait. Voilà, elles prennent une sanction, elles perdent leur titre, tout ça. Pour moi, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est vraiment, je reste sur Michael Cole focalisé. J'ai été étonné du ton qu'il a pris, parce que pour le coup là, moi je me fais double ration. Hein. J'ai regardé la version en VO et la version française. Et vraiment dans la version originale, Cole vraiment utilise un ton. Tout est vraiment particulier. Et je me suis vraiment dit waouh, quand même là. C'était là. Là, je me rappelais pas d'avoir entendu voilà une annonce comme ça faite de cette manière-là. En plus, à SmackDown, qui est le plus gros show de catch de la semaine, le plus regardé dans le monde. Donc c'était quand même assez incroyable. Et bah écoutez, c'est parti. La suite au prochain numéro, comme dirait le plus chaud des Philippe Chéreau. Allez, on y va. On est parti. Ça y est, les amis. On est au main event de ce SmackDown, le Tag Team Unification Titles Match. Les titres de Raw et de SmackDown sont dans la balance. Les champions sont là aussi. On va avoir. Grand Rapids a été cool, hein, pendant le main event. Hein, le public était archi chaud. Là, franchement, version originale ou version française, tout marchait bien. C'était chaud. Les RK-Bro font une pop monumentale, stratosphérique en arrivant. Les Ouzo prennent la hit qu'il faut. Ils avaient des sneakers que j'adore. J'adorais vos pompes, les Ouzo. Et et le match est parti. Et on va avoir un match quasiment de 14 minutes. Alors moi, je vous avoue, j'en aurais bien pris direct. Hein, je vous le dis, Peuple Catcher, vous avez l'habitude avec moi. Moi, j'aurais bien pris 10 minutes de plus. Parce que là, on avait un match de pay-per-view quand même, quoi. Et ça va s'envoyer dans tous les sens. Toute la hit, toute la stratégie des Usos pour prendre une hit absolue. Avec Riddle, dont, pour qui on va avoir une petite peur. Hein, parce que il va se prendre sur un jeté de Jimmy Uso contre le turnbuckle. Il va frapper lourdement entre les omoplates, je crois. Et on a la sensation que c'est un peu legit, hein, qui se fait quand même vraiment mal. Il y a un espèce de moment de flottement. Randy va même rentrer sur le ring un peu pour protéger de la vindicte des Uso qui veulent continuer à faire de la bagarre. Mais non, ça se marche pas comme ça, les gars. Finalement, Riddle va revenir dans le ring et va être quand même bien courageux, va réussir à passer un gros hot tag à Randy qui, alors là, va nous passer un modèle de signature move avec son power slam, son DDT de la deuxième corde. Bref, tout se passe très bien. Tout se passe tellement bien qu'il va pouvoir placer son RKO sur Jimmy, mais il y a Jay qui sera là pour venir casser le tombé. Là-dessus, Riddle et Jay vont se retrouver confrontés dans le ring. Et c'est Riddle qui, à ce moment-là, va commencer à claquer toutes ses trademarks, hein, son genou, sa clothesline, la totale, les références à Randy. Grosse pop derrière, il va placer son neckbreaker. Jay, lui, il va réussir à s'en sortir, va tenter de porter un slash, mais Riddle va monter sur le turnbuckle et va tenter de nous refaire un spot qu'ils avaient déjà fait, je crois, au dernier round ou à WrestleMania, enfin, je sais plus. Enfin, bref, le même spot, mais sauf que là, Paul Heyman va venir distraire l'arbitre à ce moment-là et va laisser tout le temps nécessaire à qui donc ? Eh ben, tout simplement à la tête de la table pour venir intervenir, parce que s'il y en avait un qu'on savait bien qui traînerait dans le coin, c'était bien la tête de la table. Et du coup, Riddle va tomber lourdement de la troisième corde après avoir tenté quand même un RKO. Jay va porter son splash pour la victoire. 1, 2, 3. Nous avons des New Tag Team Champions of the World. Les Uso sont champions de Raw et de SmackDown. À la fin, la Bloodline va attaquer le RK Bro. Ça va se terminer avec un splash de Jay encore de la troisième corde à travers la table des commentateurs. Grosse célébration sous une bronca énorme du public de Grand Rapids. Ça y est, c'est fait. On a des nouveaux champions par équipe et cette fois, ils vampirisent les deux shows, le show rouge et le show bleu. Alors, messieurs, dames, est-ce que ça me fait bizarre de dire à Ketchup, messieurs, dames, est-ce que vous avez, c'est un plaisir formidable, et est-ce que vous avez acknowledgé nos nouveaux champions par équipe, ma chère Letty ?
Alors, j'ai trouvé le match vraiment super. Franchement, c'était au niveau d'un pay-per-view, en fait. C'était, il y avait tout ce qu'il fallait. Le public réagissait de feu, en fait, pendant tout le long. Après, bon, bah, le résultat, on se doutait bien que de toute façon, notre ami Roman allait débarquer. Ça, c'était obligé. Après, acknowledge les champions, pas trop, en fait. J'aime bien la Bloodline, j'aime bien les Uso déjà avant, au début de leur carrière, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais l'idée d'unifier les titres, en fait, moi, c'est avec ça surtout que j'ai un souci, en fait. Je me dis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les titres sont déjà tellement peu mis en valeur, quels qu'ils soient, que là, de donner tous les titres à trois mecs, je trouve que c'est un peu beaucoup, en fait. Il n'y a pas trop d'intérêt derrière, je pense.
Et tu trouves que c'est too much ?
Je sais même plus si c'est too much, parce qu'en fait ça fait un an que je me dis que c'est too much à chaque fois, et au final je commence à me poser la question si c'est pas juste la nouvelle façon dont ça a tourné pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, avec une faction qui sera au-dessus de tout, au-dessus même des titres. On leur donne quand même, hein, parce que c'est quand même faire plaisir quand même aux gars, mais je sais pas comment le dire, mais t'as l'impression que ils sont tous de tout le Bloodline, et qu'on leur donne tous les titres histoire qu'en fait c'est pour qu'ils aient tout l'or sur eux, mais c'est même pas les titres le plus important. Finalement, le plus important, c'est de dire que la Bloodline est au-dessus de tout et limite invincible, en fait. Et là-dessus, je me dis, alors c'est dangereux parce que derrière tu as absolument rien qui se construit. Et, on en parle souvent, ça. C'est comme comment dire, dommage de pas avoir de division intermédiaire. Là t'as plus de division tag team, t'as plus de division homme, t'as les divisions ceinture secondaire n'existent pas chez les femmes. On en reparlera dans le mot de la fin, mais où était Ronda ce soir? Donc c'est complètement désert, mais en même temps, t'as l'impression que c'est la patte de la Bloodline sur SmackDown et que SmackDown c'est show la Bloodline en fait. Et vous branchez à la télé pour regarder la Bloodline. Et puis bah j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même à faire en sorte que pour l'instant ça marche quoi, parce que enfin j'ai pas regardé les audiences depuis longtemps, mais de mémoire elles tiennent toujours.
Ah oui oui oui.
En pay-per-view ça fait un carton à chaque fois et on a des beaux matchs en plus, donc voilà, d'un côté ça me dérange, mais de l'autre côté je me dis bah ça marche en fait leur connerie.
McDonald's pète les 2 millions de vues toutes les semaines, hein, sans problème, quoi. Hein,
voilà. Ouais, donc c'est bien plus. Hein.
C'est... Eh oui.
C'est ouf.
Ah non, il n'y a pas de problème sur les ratings. La Bloodline n'a pas entraîné de perte de ratings. Et Roman Reigns est à son apogée. Il n'a jamais été aussi populaire. Il n'a jamais été aussi puissant. Bref. Moi, écoutez, je suis partagé. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'ai trouvé qu'on avait un fantastique match. Un vrai beau match de catch de pay-per-view. Digne d'un pay-per-view. Digne d'un PLE. C'était vraiment fun, quoi. Vraiment, voilà. Alors, évidemment, les heels ont healé. Les heels ont triché. Alors, j'ai vu que ça se plaignait grave. Hein, ouais, ils savent pas gagner autrement qu'en trichant, etc. Ben oui, c'est la vérité. Mais c'est ainsi. Il fait le catch. Et c'est depuis la nuit des temps comme ça. Ceux qui n'avaient absolument pas cru à une arrivée de Roman Reigns à SmackDown, eh bien, je suis désolé pour vous, hein, mais pour moi ça se voyait comme le nez au milieu de la figure.
Oui.
Donc, de toute façon, pour moi il n'y avait strictement aucune surprise à l'arrivée de la tête de la table. Ça n'a pas empêché que j'ai trouvé le match super. J'ai trouvé, en fait, sur l'enchaînement justement de la fin, sur la fameuse tricherie, bah finalement du coup tout ça c'est assez legit. Paul Heyman il fait ce qu'il fait d'habitude, il vient détruire l'arbitre, il vient taper la discute, il vient interférer et ça permet tranquillement à la tête de la table d'arriver discretos et puis d'en finir comme ça en finit. Moi je veux rappeler les qualités énormes des quatre catcheurs entre les cordes et Main Event Jay en particulier, quoi. Je trouve qu'il est pour moi, qui est le meilleur des deux frères et vraiment qui est incroyable. Quoi. C'est lui, hein, d'ailleurs, qui a le pin final, hein, toujours, hein, de toute manière, dans l'équipe. Hein. Et pour moi, c'est un des plus grands. Enfin, de toute façon, les Usos, c'est l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Pareil, voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas... Et voilà, je vois le catch depuis assez longtemps comme ça. Et franchement, c'est une équipe fantastique. Donc, pour moi, quelque part, il mérite totalement d'avoir ce titre. Mais je vous rejoins sur le côté, ouais, mais là, c'est un peu too much, quoi, effectivement. Les Arcabro, ils étaient dans une telle pop, ils auraient pu encore garder un peu ces ceintures, etc. Et avec les doubles ceintures, je pense qu'ils auraient fait des très beaux champions et que le public de SmackDown aurait été ravi d'avoir Randy Orton et Riddle venir les vendredis soirs. Donc, peut-être que c'était pas forcément une opération terrible. Mais je crois que la WWE a été frileuse et elle avait pas envie de devoir se lancer dans du booking comme ça et de devoir surtout se lancer dans un booking où Roman Reigns aurait un peu trop tabassé ses frangins et tout ça. Je pense que ça collait pas, en tout cas, dans les idées de la WWE pour la suite. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi les champions. Bah écoutez, de toute façon, on va pouvoir le décider facilement si c'était bien ou pas grâce, ma chère Letty, pour la première fois dans ta carrière de chroniqueuse de catch-up, ton top flop note, et ça concerne SmackDown, c'est à toi. Donc tu donnes une note sur 5 étoiles, tu peux faire des virgules, et puis ton top flop, c'est comme tu veux.
Eh bien, je vais commencer par mon flop. Du coup, ce sera plutôt... Enfin, pour quelqu'un qui n'était pas là, justement, Papy en parlait tout à l'heure, c'est Ronda. Où est-ce qu'elle est ?
Elle voilà. m'a voulu mon flop.
Ronda !
Je suis désolée.
On arrive au top flop, là, et c'est le scandale !
Terminé, là. Alors là, tu vas voir, le prochain fois que tu viens au studio, il sera fermé. C'est même pas la peine, là.
Bon, bah, je vais rendre le micro en partant. Je laisserai tout, il n'y a pas de souci.
Alors, explique-nous.
Oui. Ben, elle est championne depuis, ça fait quoi ? Ça fait 10 jours et elle est déjà plus là. Enfin, voilà, on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, les champions qui sont pas du tout mis en avant. Et ouais, enfin, moi, je regrette qu'elle soit pas venue. Au moins, on partait sur une bonne initiative avec tout ce qui était. Je trouve plus mes mots. Je suis désolée.
Tu veux dire par rapport à la victoire tu parles
voilà,
de la victoire de Ronda Rousey,
ta victoire de la semaine dernière, l'Open Challenge et
ouais,
tout ça.
Ouais, ouais.
Et elle est tout de suite plus là. Enfin, j'ai trouvé ça un peu gênant de mon côté. Après, le top, ce sera le main event, hein, puisque c'était quand même un super match hein, qui a été bien mené par tout le monde et puis sans. sans fausse note, on va dire, puisque ben, Roman, effectivement, de toute façon, enfin, c'était couru d'avance. On savait très bien que ce ne serait pas un match de la Bloodline si il n'y avait pas une intervention. Ce ne serait pas normal. Et puis ma note, ben, je vais dire un petit. Un bon 3,75 quand même pour ce show.
Et puis aussi à Thémis, c'est à toi.
Ah, c'est de la bonne note ça.
C'est de la bonne note ça.
Mon flop, du coup, je suis embêté là parce que je voulais vraiment le donner à l'absence de Ronda, mais je vais le garder quand même. Du coup, tant pis, on va avoir un flop commun. Parce que ouais, moi aussi, je suis dérangé là. Je pensais vraiment que Ronda allait. C'est marrant parce que quand Ronda a pris le titre, je me suis dit oh là là, ils vont galérer avec Ronda championne, elle est pas prête et tout. Il faut lui mettre un adversaire de valeur, sinon ça va pas le faire. Finalement, elle part sur un open challenge où elle affronte des petits jeunes. Je me dis, oh, tiens, bah, finalement, voilà, ils veulent tenter le coup avec Ronda. Et puis, elle-même, elle assure un peu, elle a l'air souriante et tout. Je dis, bon, allez, on va laisser une chance au produit. Et boum, la semaine suivante, directement, elle n'est pas là. Donc, je comprends pas ce qu'ils font avec elle. C'est un peu dommage. Du coup, le niveau féminin était très, très court sur ce show parce qu'on a eu que le Raquel versus Shotzi, en plus vu qu'il n'y a plus de ceinture tag team non plus. Donc, c'est-à-dire que chez les filles, t'as vraiment plus personne, quoi. Donc, ça faisait vraiment désert. Hein. La division féminine m'a semblé très, très pauvre ce soir. Et pourtant, les filles n'ont pas démérité. Hein. C'est vraiment pas pour ça que je dis ça, mais c'est plus en termes de profondeur, quoi. T'avais trois filles sur la soirée. Mon top, du coup, c'est mon flop. Mon top, alors, comme je vais pas le donner au main event, je vais le donner au Baron. Parce que le Baron, il m'a fait plaisir. Il était tellement détestable qu'il m'a fait plaisir. Et donc, je lui donne un top. Et puis, je me dis qu'il n'y aura pas souvent des tops dans l'année, le brave Corbin. Donc, je profite pour lui en donner cette fois-ci. Et ma note, c'est une bonne note aussi parce que le show, je l'ai suivi de bout en bout parce que j'étais impatient de voir ce main event. Le main event, il m'a agréablement surpris parce qu'ils sont allés au bout de l'idée. J'aime bien citer Ringside sur ce sujet-là, mais c'est parce qu'il, je pense qu'il a raison quand il dit, de toute façon, la WWE, il peut avoir des bonnes idées, il peut avoir des mauvaises idées, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'ils aillent au bout pour qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Et là, avec la Bloodline, ils vont vraiment au bout du bout. Je ne sais pas si c'est pas dangereux. Moi, j'ai pas assez, peut-être que toi, ton tour, t'auras plus de souvenirs que moi. Sur la NWO, la WCW qui, pareil, était à un moment omnipotent et prenait la main sur l'ensemble du show. Est-ce qu'on va pas tomber sur ça avec un show de SmackDown qui est devenu le show de la Bloodline? C'est-à-dire que maintenant, si t'appelles la Bloodline, le show n'existe pas, t'as absolument rien derrière. Je sais pas, mais en tout cas, ce show-là, il m'a fait plaisir. Pour bien accueillir Letty, je vais la suivre. Je vais donner aussi un 3,75 sur ce show.
Note. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur le principe de la NWO. Oui, il y a eu cette période là où ça a vampirisé complètement Nitro. Et ouais, c'est comme ça, mais il y a des périodes dans le catch comme ça où il y a des factions monstrueuses, quoi. Tu vois, je me rappelle quand même, il n'y a pas si loin de ça, de nous, il y avait quand même le Shield à une époque, quoi, qui a détenu pareil les ceintures par équipe, des ceintures de champion US, des ceintures de champion du monde. Ils ont même, les mecs, trouvé le moyen d'être trois fois champion du monde dans un même pay-per-view. Je crois que c'était à Money in the Bank, je sais plus quelle année. Donc, il y a eu un moment où, et la NWO, c'est pareil, il y a eu un peu des départs, un peu des trahisons, etc. Mais les mecs continuaient à garder, à monopoliser des ceintures, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans un espèce de pinacle, quoi. C'est-à-dire que là, il y a la Bloodline qui est sortie de terre avec l'arrivée de la tête de la table à SummerSlam 2020, ou c'était pas SummerSlam, je sais plus c'était quel pay-per-view, et en top heel. Depuis, les Ouzos sont arrivés dans l'affaire. Il y a eu quand même cette rivalité, moi, que j'ai trouvé superbe avec Jay, qui a lancé totalement le personnage Roman Reigns sur les rails de la illitude absolue. Et effectivement, ils mettent le paquet et tu as raison, papy, ouais, ils vont au bout de leur idée, quoi. Là, on sent vraiment que là, c'est leur truc, que la Bloodline, c'est leur objectif et qu'ils bossent pour ça. Et donc, ils vont jusqu'au bout, quoi. Et ça, bah, quelque part, je trouve ça respectable parce que, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on aime pas, etc., etc., on peut pas leur reprocher de continuer dans dans ce qu'il pense être le meilleur. Et c'est comme ça que ça marche. Et comme on l'a dit, les ratings de SmackDown, ça baisse pas. Au contraire, tout va très bien. Les pay-per-views, c'est des cartons absolus. C'est la plus grande fédération de catch mondiale, la WWE. Et c'est comme ça. Et on doit acknowledge actuellement nos champions. Mais moi, je désespère pas. Je me dis effectivement qu'on va pas pouvoir repartir encore pour une année complète comme ça, avec une bloodline qui vampirise. Il va y avoir fatalement là des twists. Il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir des mecs qui vont se positionner. Mais là, en fait, on est en plein dedans, quoi. En fait, on est dans l'œil du cyclone, là. Là, on va bientôt en sortir. Et là, vous allez voir, les amis, il y a plein de gens qui vont arriver. Et donc, je vais en profiter pour balancer mon top flop note. Mon flop, et bah, écoute, papy, je vais aller totalement à l'inverse de toi, puisque moi, je vais le donner à Happy Corbin, quoi. Ce mec fait de l'anti français en direct à la télévision américaine en cassant un trophée dédié à André le Géant. Et ça, pour moi, c'est pas possible. J'accroche pas, hein, mais c'est pas une surprise, hein, sur Catch-up. C'est pas la première fois que je le dis. Et là, franchement, alors là, en plus, se coltiner un Happy Talk où il est tout seul, où il se passe rien avec personne, et bah, là, non, merci, c'était vraiment pas mon kiff. Donc, Happy Corbin, au lieu de prendre du temps d'antenne aux autres, bah, reste en backstage, quoi, écoute, hein, voilà, hein, bon, ça serait bien. Puis, bah, comme vous, quasiment, enfin. Le top, je vois pas comment je peux faire autrement que de le donner au main event. Le match était superbe, quoi. C'était un régal, quoi. Un vrai, grand, beau match de Tag Team Division. En ce moment, moi, je me régale avec les matchs de Tag Team Division, que ce soit à la AEW ou à la WWE. Quand je vois des matchs pareils, je me dis, ah, c'est cool d'être fan de catch, quoi. Vraiment avoir un... Moi, je vous dis, hein, j'aurais pris bien 20 minutes de match, là, ça m'aurait posé aucun souci, quoi. Donc, c'était cool. Puis, bah, ma note va être haute aussi, hein, du coup. Et puis, là, je vous vois à 3,75 les deux et tout ça. Je me dis, est-ce que je vais me mettre à l'équilibre quand même avec mes partners of the day? Bah, ouais, allez, je vais me mettre à l'équilibre et je vais mettre un 3,75. Comme ça, on termine une review dominicale parfaitement à l'équilibre, parfaitement, mes amis. Bah voilà, ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown. Peuple de catch-up, si vous voulez nous rejoindre, c'est simple, rejoindre la communauté sur le Discord. Tous les liens sont en description de notre vidéo YouTube. En ligne, vous avez le Monday Night Raw de cette semaine, le comptoir du catch avec Roddy Letty et avec l'archange Géliel. Vous pouvez nous rejoindre sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Spotify, j'ai perdu les noms à force. Papy, tu devrais les connaître par cœur depuis le temps, c'est un scandale.
Machin
Apple Podcast, Spotify, podcast, Deezer, podcast, Google Podcast,
tout ce qui est bon.
Voilà, exactement, ouais, tout ce bazar. Tout ce bazar de podcast,
personne connaît, voilà, ouais. faut le dire les choses.
Et on pareil sur les réseaux sociaux,
on répète à chaque fois les noms, mais on sait pas ce que c'est, nous.
Ouais, bah, c'est pareil sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, TikTok, bref, on est partout pour nous trouver. Il ne me reste plus qu'à remercier écoutez, les chroniqueurs of the day, en l'occurrence mon papy. Merci papy.
Mais merci à toi, tonton, de m'avoir invité pour une frite de week-end. Et du coup, merci à Letty d'avoir complété cette frite week-end.
Merci à notre rookie. Merci, Letty.
Merci, tonton. Merci, papy, de m'accueillir dans votre équipe.
Allez, on vous fait des bisous, peuple de catch-up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cornes à l'ange, plein la face. Salut, Letty.
Salut, tonton. Salut à tous. Salut, papy.
Salut! Salut, papy!
Salut, tout le monde!
Et salut, peuple de catcheurs! Papy et Corbin, c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous deux, quoi?
Il était tellement méchant que je me suis vu dans son regard.